Bonjour à tous. J'aimerais qu'on puisse parler de quelqu'un qui pensait aimer Dieu, mais qui ne l'aimait pas complètement dans le sens que Dieu attend qu'on l'aime, et qui lui aussi, malgré l'amour qu'il avait quand même pour Dieu, a dû apprendre comment bien l'aimer. Et j'aimerais parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est celui qu'on nomme l'apôtre de l'amour, c'est celui qu'on trouve dans l'évangile des Jean comme étant celui, le disciple que Jésus aimait. Et pourtant, l'apôtre Jean, lui aussi, c'était pas un saint, et lui aussi a dû apprendre à aimer Dieu. Lui aussi a dû apprendre qui était Jésus, pourquoi il était venu sur la terre. Lui aussi a dû comprendre un jour qu'il était pécheur, comme les autres, comme nous tous. Et j'aimerais qu'on lise, pour introduire ce message, un verset qu'on cite très souvent, mais je trouve ça important de le lire, parce que c'est lui qui l'a écrit. C'est dans le chapitre 3 de son évangile, et c'est au verset 16. Voici ce que Jésus dit, que Jean rapporte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Jean rapporte quand Jésus parle à Nicodème. Jésus, Fils de Dieu, a été donné par Dieu pour les hommes, par amour pour les hommes, parce que Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse. Donc il y a plusieurs choses qui transparaissent de ce verset. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un peu plus de l'auteur de l'évangile. Parce qu'avant d'écrire ces choses, Jean a dû lui-même avoir un cheminement personnel. Qui est Jean? Qui est l'apôtre Jean? L'apôtre Jean, quand Jésus l'a pris pour disciple, avec son frère, lui a donné un surnom. On le trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 3. Au verset 17, et ce n'est pas pour rien qu'il a eu ce surnom. Quand les disciples de Jésus sont nommés, on trouve au verset 17 qu'il était question de Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie « Marc tient en plus à ce que nous comprenions », parce qu'il fallait bien que ce soit clair pour tout le monde. Jacques et Jean étaient fils du tonnerre. Autrement dit, le jour où vous portez ce surnom, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est sanguin, c'est quelqu'un qui est fougueux, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a un tempérament très fort, qui peut s'emporter, c'est quelqu'un qui est loin d'être dans une démarche d'amour, qui est loin d'être dans une démarche pacifique. Nous avons là la présentation de quelqu'un qui est fougueux et qui pourrait faire des choses qu'il pourrait regretter. Vous savez, ça nous arrive des fois, dans notre vie, on a tous fait un jour des choses qu'on a regrettées après. Parce qu'on était pris dans une situation, on était pris dans notre fougue, dans notre réaction, et on a dit des choses en trop. On a fait des choses de travers, comme on dit, et après on en vient à regretter, parce que on crée des situations où ça ne va pas du tout. L'apôtre Jean, il était fils de Zébédée, c'était un pêcheur. Et il avait quand même une particularité, cet apôtre, c'est qu'il était jeune, et dans son jeune âge, il a su reconnaître le Fils de Dieu. Il a su reconnaître le Fils de Dieu. Et il fait partie d'ailleurs des quatre premiers disciples que Jésus a appelés. Et l'apôtre Jean, on peut dire ce qu'on veut de lui, on peut lui reprocher son caractère, mais l'apôtre Jean, c'est quelqu'un qui avait reconnu en Jésus la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui avait reconnu en Jésus une autorité. C'est quelqu'un qui, à la découverte de Jésus, avait un certain amour déjà pour Jésus. Mais c'est pas suffisant. L'apôtre Jean était aussi quelqu'un de fougueux, d'entier. On le voit quand il court jusqu'au tombeau, il arrive le premier. la fougue de la jeunesse, vous savez, l'explosivité, je dirais. Ça, c'était Jean. Mais aussi persévérant, travailleur, pour faire ce qu'il faisait à son âge. Voilà, ça démontrait quand même certaines qualités, mais un caractère fort, bien trempé, comme on dit. Ça, c'était l'apôtre Jean. Mais Jean, je le redis, c'est quelqu'un peut-être plus que les autres, avait compris l'importance des paroles de Jésus, comme étant des paroles qui faisaient autorité. Jean ne mettait pas en doute les paroles de Jésus. C'est celui qui a écouté, qui a retenu ces paroles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'évangile de Jean, si vous venez là pour la première fois, non, vous ne le savez pas, je vous le dis. L'évangile de Jean, c'est l'évangile qui rapporte le plus de paroles de Jésus. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Jean est quelqu'un qui écoutait, qui retenait, qui mémorisait. Parce que pour redire ainsi toutes les paroles de Jésus, sachant qu'il a écrit cet évangile à un âge très avancé, l'évangile de Jean est le dernier de ses écrits. Il avait de la mémoire, il avait retenu, et il avait surtout, au temps où il était contemporain de Jésus, sur la terre, il avait été attentif. Donc c'est quelqu'un qui retenait les choses, c'est quelqu'un qui considérait les paroles de Jésus et qui surtout ne voulait pas les oublier. Qu'est-ce qu'on peut dire par là ? On peut venir à l'église, on peut même apprendre des versets par cœur, on peut avoir un certain amour pour Dieu, avoir grandi en ayant eu connaissance de Dieu et avoir une certaine complaisance avec la religion, parce que c'est comme ça que ça se passe dans notre tête, c'est une religion. On peut avoir apprécié, se retrouver dans des moments comme celui-ci. On peut même aimer lire la Bible. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant. On peut avoir un certain amour pour ces choses, mais ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas si ça sera la parole de cette prédication, mais ce n'est pas suffisant. L'amour qu'on peut avoir n'est pas suffisant. Et Jean, il a fallu qu'il comprenne certaines choses, lui aussi. J'aimerais citer cette parole qu'il a écrite. On va lire Jean aujourd'hui. Au chapitre 14 de son évangile, nous avons cette parole. Parole de Jésus, que Jean a aussi rapportée. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jean avait quand même compris, il acceptait ses paroles. Et il aimait déjà Jésus. Dans son cœur, il y avait un certain amour. Mais je le redis, ce n'était pas suffisant. Le cœur de Jean a lui aussi a besoin aussi d'être changé. Jean avait reconnu l'autorité de Jésus, il l'aimait, il savait que Jésus aimait les hommes, il a vu des miracles de Jésus, il a assisté à plein de choses. Et à chaque fois qu'il entendait Jésus parler, il retenait attentivement ses paroles, il les gardait précieusement dans son cœur, mais il manquait toujours quelque chose. Regardez l'attitude de Jean. Regardons les motivations dont pouvait faire preuve l'apôtre Jean et nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu cette fois, au chapitre 20. Jean était apôtre, il était disciple de Jésus avec les autres, ils avaient été envoyés en mission aussi. Et au chapitre 20 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons quelque chose de particulier. Au verset 20, on va lire ce passage. Il est question de la mère des fils de Zébédée, mais quelque part, les fils étaient un peu dans l'affaire. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, donc ils sont bien là, Jacques et Jean. Elle n'est pas venue toute seule, il est question de la mère, mais Jacques et Jean sont associés à cette histoire. Et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est incroyable quand même de voir ça. Quelle est la motivation de cette demande ? Est-ce que c'est l'amour, vous pensez ? Pas trop, non. C'est pas trop l'amour. Et d'ailleurs, les disciples se disputaient pour savoir lequel était le plus grand. Ce genre de choses n'a pas dû aider. Comme on dit, ça a dû rajouter de l'huile sur le feu. Et il y avait comme une compétition entre les disciples. Et Jean, dans sa jeunesse, voulait être le premier. Jean était ce petit compétiteur aussi. C'est ce qui, moi, je ressors, c'est ce que j'interprète moi-même de ce texte, c'est que Jean voulait arriver le premier. Jean voulait être numéro un. Mais quand on continue ce que Jésus dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Nous le pouvons, » dirent-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Donc c'est pas contre la mère qu'ils en ont, hein, c'est contre les deux frères. Jean et Jacques avaient un tempérament quand même particulier. Ils voulaient être respectés des autres, ils avaient une attitude qui ne démontrait pas l'amour. Mais Jean, en ce qui le concerne, Jacques aussi peut-être, on en sait un peu moins sur Jacques. Mais Jean avait quand même, malgré tout, une bonne motivation, parce que Jean, il aimait Jésus. Et il voulait le connaître. Mais voilà, c'est la fougue de la jeunesse, je dirais. Peut-être il n'a pas calculé l'impact qu'aurait eu cette histoire. Et il y est allé, il a foncé. Jean avait besoin d'une action de Dieu dans sa vie. Ça ne suffisait pas. L'amour qu'il avait n'était pas suffisant. Son état d'esprit n'était pas suffisant. Peut-être que Jean pouvait démontrer de la fougue, de l'impétuosité, fils du tonnerre, pouvait avoir de la persévérance aussi, mais ce n'était pas suffisant. Et d'ailleurs, avoir un caractère tel que celui-ci, je dirais, ce n'est pas certainement pas, ne croyons pas qu'avoir un caractère bien trempé comme ça nous aidera à rencontrer Jésus-Christ. Je le dis pour pas qu'on comprenne mal mes propos, je suis pas en train de faire l'apologie de l'explosivité, de l'impétuosité, de la fougue, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'aimerais qu'on voit un autre passage dans l'évangile de Luc où on voit Jean, au chapitre 9. D'abord, on va commencer au chapitre 9, au verset 1er. Et là, on va découvrir justement le défaut d'une qualité que Jean avait. Et on voit tout le problème de la source. Verset 1er, Jésus, c'est il, appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons ainsi que le pouvoir de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc là, dans ces deux versets-là, on a un moment particulier où les disciples reçoivent de Jésus une autorité. Jésus leur donne autorité, mais Jean... C'est quelqu'un qui donne de l'importance aux paroles de Jésus. Donc quand Jésus a parlé, Jean le reçoit comme tel. Et il se sent ainsi revêtu d'une autorité. Et d'ailleurs, quand les disciples vont aller, ils vont pouvoir faire des miracles. Dans un autre évangile, nous est rapporté l'émerveillement des disciples devant les démons qui étaient soumis, devant les guérisons. Mais Jésus leur dit bien, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. L'important n'était pas de faire des miracles, des guérisons, etc. Mais Jean était un apôtre qui a reçu cette parole. Et regardez le verset 51, c'est intéressant de regarder ça. Il passe dans différents villages et là, il devait passer par un village appelé Samarie. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Quelle foi quand même! Jean et Jacques, c'est très surprenant cette parole parce qu'ils étaient persuadés que s'ils le demandaient, ils l'obtiendraient. On voit là comment Jean et Jacques avaient reçu cette autorité que Jésus leur avait conférée. On voit là toute l'importance que Jean et Jacques ont donnée à la parole de Jésus. Et ils y croyaient, mais c'était quelque chose de très fort en eux. Et ils étaient convaincus que, ah yes, c'est bon, ils avaient reçu l'autorité, ils étaient comme Jésus. On voit qu'il y a un problème. Parce que derrière cette demande-là, là encore, on est tous bien d'accord, c'est pas l'amour qui fait ce genre de réflexion. La source de ce genre de suggestion n'est certainement pas l'amour. Donc on voit quelque chose de très important, c'est qu'on peut rester là, on peut assister à des messages, on peut être d'accord, on peut même faire des expériences avec Dieu, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de comprendre quelque chose d'autre. Et Jean, il était à l'école de Jésus. Il était disciple. Il avait même prêché. Ça va loin quand même. Il a annoncé la bonne nouvelle. Par lui, il y a eu des miracles. Par lui, des démons ont été chassés. Et pourtant, il n'avait pas tout compris. Et Jean, je le dirais, on en a la preuve dans son évangile, n'était pas encore converti, malgré tout. C'est incroyable quand on le réalise. C'est pas parce que vous assistez à des réunions comme celle-ci, ce n'est pas parce que vous avez fait des expériences avec Dieu, ce n'est pas parce que vous avez une certaine complaisance sur les écrits de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez une certaine vie, peut-être rangée, comme on l'a chanté, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Il va falloir que Jean vive une expérience particulière. Jésus, dans la suite de cette réflexion, le reprend d'ailleurs sévèrement avec Jacques. Mais on découvre, ce genre de réflexion nous fait découvrir vraiment de quoi il était animé. Ce n'était pas l'amour. Et pourtant, c'est Jean qui écrit ceci, on va le lire dans sa première épître. C'est facile à retenir les références parce que c'est quasiment les mêmes. 1 Jean 3,16. La réciproque de Jean 3,16. Pour ceux qui aiment les mathématiques, cela donne à réfléchir. 1 Jean chapitre 3, verset 16, voici ce que Jean écrit. À ceci, nous avons connu l'amour. Donc lui, imaginons que c'est Jean qui l'écrit et que lui en particulier avait besoin de le découvrir. En ceci, nous avons connu l'amour. Et il va dire comment? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On est loin du Jean qui réclame à être à la première place. On est loin du Jean qui réclame à ce que le feu du ciel descende et consume tous. Non, là il a changé. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mais Jean tout simplement a découvert l'amour de Dieu. Et j'insiste cet après-midi sur le fait que c'est pas nos expériences, c'est pas notre sympathie pour ces choses, ce n'est pas parce qu'on a grandi en ayant eu connaissance des choses de Dieu. Toi peut-être qui es jeune, ce n'est pas ce que tu as reçu de tes parents qui va faire que tu es sauvé ou non. C'est de comprendre un jour que Dieu t'aime, que Dieu t'a aimé et qu'il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean, il avait premièrement le maître pour qui il avait tellement de respect. Il a vu le maître lui laver les pieds, ses pieds. Non seulement il a vu le maître laver ses pieds, mais il a vu le maître laver tous les pieds de tous les disciples. Ce qui fait une sacrée, 12 paires de pieds, sachant que ce n'est pas des pieds comme on a aujourd'hui, où c'était des pieds de personnes qui marchaient dans la poussière, en sandales, etc. Ce n'était pas des pieds propres, hein. Jésus, combien de temps il a passé à faire tout ça? Un certain temps. Jean a persévéré. C'est lui qui nous donne le contenu de la prière de Jésus à Gethsémané. Et ça, c'est fort quand même. Souvent, je me suis posé la question, je dis, comment il a su ce que Jésus a demandé à Dieu? On ne sait pas. Peut-être qu'il a eu une révélation de Dieu, peut-être que Jésus lui a dit, ou peut-être qu'il a veillé et puis qu'il a tendu l'oreille, parce qu'il n'était pas loin. On ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Mais Jean rapporte cette prière. Et Jean nous fait part particulièrement des souffrances de Jésus à Gethsémané. Jean nous fait part particulièrement des angoisses qu'il a eues à Gethsémané. Et Jean nous fait part de cette fabuleuse prière que Jésus a faite à Gethsémané. Jean est aussi le disciple que nous retrouvons à la croix, le seul. Et il est spectateur, il est témoin de tout ce qui s'y passe. C'est Jean qui va entendre, qui va voir déjà Jésus. Ça veut dire que si Jean est à la croix, il ne l'a pas lâché d'une semelle. Il a toujours suivi, de près. Il a vu Jésus souffrir. Il a vu Jésus flageller. Il a vu Jésus porter sa croix. Il n'était pas loin. Il a vu tout ça. Il a entendu les insultes. Il a vu le mépris de tous ceux qui étaient là. Il a vu les Romains se moquer de lui. Il a vu les souffrances physiques. Il a entendu Jésus hurler de douleur. C'est pas écrit, mais quand on reçoit des coups de fouet avec des clous au bout des lanières, qui ne crierait pas? Jésus a crié de douleur, c'est sûr. Enfin, c'est pas écrit. Mais j'imagine. Jean a assisté à toute cette scène. Jean a suivi Jésus. Il aimait Jésus vraiment et il l'a suivi de près. Il a assisté à toutes ces choses. Quand Jésus était sur la croix, il a vu comment Jésus réagissait. Il a entendu Jésus dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais imaginons la scène, il est crucifié pour une cause injuste. Il a souffert et il entend Jésus dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quand il a entendu ça, ça a dû faire quelque chose en lui. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il a cru. C'est pas encore là qu'il a cru. Jean s'est vu aussi confier la maman de Jésus, humaine. Parce que Jésus n'a pas de mère, si on considère le Fils de Dieu. Jean a reçu l'ordre de prendre soin de Marie. Jean a vu aussi un brigand demander à Jésus « Souviens-toi de moi ». Et il a entendu Jésus lui répondre « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis ». Et là, il a vu un brigand souffrir dans la joie. Comment était ce brigand quand il a reçu cette parole? Je pense que de savoir son cœur ainsi pardonné, il a reçu le pardon de Dieu au dernier moment. Mais vous savez, quelqu'un qui reçoit le pardon de Dieu, son visage change. Quelqu'un qui se convertit vraiment, son visage change. Et ce brigand, Jean a pu assister certainement à un changement d'attitude radical de ce brigand. Il a pu voir l'un continuer dans son désir de faire le mal et de prononcer de mauvaises paroles. Et il en a vu un autre qui a changé. Qui sait quel est l'impact de ce brigand dans le cœur de Jean? Il était là, il a tout vu. On ne sait pas. Il a effectivement entendu Jésus souffrir aussi. Et il a aussi entendu une parole de Jésus qui a dû attirer son attention. Parce que Jésus, sur cette croix, prie et il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la première fois que Jean entendait Jésus dire « mon Dieu » au lieu de dire « Père ». Ça fait réfléchir. Jésus n'appelle plus « Père », mais il dit « mon Dieu », comme s'il était plus loin. Jésus était à ce moment capital où il était en train de porter le péché du monde. Il était dans ce moment où Jésus, sur la croix, était en train de porter nos péchés, où il était en train de porter le péché de Jean, mais où il était aussi en train de porter ton péché. C'était ce moment où Jean a certainement dû être surpris d'entendre Jésus dire « mon Dieu ». Jésus est venu pour porter les péchés du monde, le péché du monde. Et à la fin, il a entendu Jésus dire « Tout est accompli ». Il a assisté à toutes ces choses. Il était le seul disciple qui était là. Mais ce n'est pas encore là qu'il s'est converti. C'est curieux, mais ce n'est pas là qu'il s'est converti. Et le moment où il s'est converti, mais Jean le dit, c'est dans le chapitre 20 de son évangile, au verset 8. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il y en a plusieurs qui croient que Jésus est mort. Il y en a plusieurs qui croient que Jésus est mort pour les péchés du monde. Et il y en a qui, d'un point de vue intellectuel, ont compris ces choses. Il y en a qui ont accepté le fait que Jésus devait mourir sur une croix, que Jésus devait souffrir pour porter nos péchés et qu'il est mort. Et il y en a qui l'ont cru, il y en a peut-être parmi vous qui le croyaient, mais ça ne fait pas de vous des personnes converties. Jean a assisté à toutes ces choses, il a vu combien Jésus était mort, combien il a souffert, il a vu Jésus porter le péché du monde. Il a assisté à ces 3 heures où il a fait noir complètement. Jésus, la lumière du monde, il est sur la croix et il fait noir. Et pas pendant 2 minutes, c'est pas une éclipse de lune. C'est les ténèbres pendant 3 heures. Jean l'a vu aussi. Il a assisté au tremblement de terre quand Jésus a crié. Il a vu toutes ces choses. Mais il n'était pas encore converti. Par contre, au verset 8 de ce chapitre 20, nous lisons Pierre et Jean courent pour aller jusqu'au tombeau. Et nous lisons ceci, on va lire à partir de verset 6. Simon-Pierre, qui lui suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, il parle de lui-même, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Le verset 9 nous conforte sur ce sur quoi il a cru. Verset 9 nous dit « Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. » C'est un moment clé dans la vie de Jean. Jésus est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes là cet après-midi. Si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que nous vous disons, ça sert à rien, c'est du vent. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut encore espérer être sauvé, ce qui fait qu'encore aujourd'hui tu peux vivre une expérience avec Dieu, ce qui fait qu'encore aujourd'hui tu peux faire l'expérience de l'amour que Dieu a pour toi, c'est bien parce que Jésus-Christ est mort, d'accord, il a porté ton péché, d'accord, mais il est ressuscité. Et il est auprès de Dieu et il intercède. Pour celui qui s'approche de Dieu, celui qui vient auprès de Dieu et qui demande « Pardonne-moi pour mon péché », à ce moment-là, Jésus au ciel intercède aussi pour lui. Et il dit « Mais j'ai payé ». Alors il peut être pardonné. Cet après-midi, tu peux être pardonné. Dieu t'aime. Et Jean, il a compris ces choses. Vous avez vu qu'il n'y a pas que Thomas qui a cru après avoir vu. C'est écrit « Il vit et il crut ». Souvent, entre guillemets, on tape sur Thomas, mais il n'est pas tout seul. Quoique Jean a quand même cru à la résurrection sans voir Jésus, ce qui est déjà bien. De quoi il est question ? Il est question de quelque chose où on voit que Jean, il était attaché à la parole de Jésus. Parce que c'est grâce à son attachement à la parole de Jésus, aux paroles de Jésus, qu'il a pu croire avant les autres. Parce qu'il s'est rappelé des versets de l'Écriture comme il l'écrit au verset 9. Jean avait conservé précieusement ses paroles, il n'avait pas tout compris, mais quand il a compris que Jésus était ressuscité, là il crut. Et là il a compris, la lumière s'est faite dans sa vie. J'aimerais relire ce verset, je ne sais pas si je l'ai lu d'ailleurs, au chapitre 14 et au verset 20. Jean, c'est quelqu'un qui considérait d'une manière particulière les paroles de Jésus. Et quand on lit ce verset, le verset 21 du chapitre 14, et qu'on l'applique à Jean, ça va très très loin. Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jean, plus que tous les autres disciples, a vu des manifestations. Il a vu Jésus en personne. Il l'a connu, mais il l'a vu aussi glorifié. Et Jean, c'est quelqu'un qui avait un amour particulier pour la parole de Dieu. C'est d'ailleurs comme ça qu'il introduit son évangile. Jean tient à ce que nous comprenions toute l'importance des paroles de Jésus. Et c'est ça que Jean avait compris, ça il l'avait compris dès le départ. Mais il a dû apprendre, il a dû vérifier par lui-même que Jésus-Christ mourait pour ses propres péchés à lui aussi, et qu'il était ressuscité. À ce moment-là, Jean a compris toutes les paroles que Jésus avait données. Et Jean a persévéré. Depuis le départ, il a gardé les paroles qu'il avait reçues. Il s'est appliqué à retenir ces paroles. Et alors qu'il entendait ces paroles, qu'il les retenait, ce que Jésus a dit pour lui s'est manifesté. Cet après-midi, j'aimerais encore te dire qu'il ne faut pas simplement sympathiser avec la parole de Dieu. Je te pose la question, comment tu considères ce que tu lis dans la parole de Dieu ? Est-ce que tu les considères comme les paroles d'un simple livre, ou est-ce que tu les considères comme les paroles de Dieu ? Quand tu lis dans la Bible que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais que celui qui ne croira pas sera condamné, est-ce que tu lis cette parole comme étant une parole d'un livre, ou est-ce que tu considères une parole de Dieu ? Sache que si tu prends cette parole au sérieux, Dieu, par Jésus, veut se manifester à toi. Et ce que Jean a vécu, quand il a compris tout l'amour de Dieu pour lui, quand il a compris à quel point Dieu avait aimé le monde, il a eu le cœur changé. Il ne faut pas adhérer intellectuellement, mais il faut réaliser que Dieu a vraiment aimé tous les hommes en la personne de Jésus-Christ. Que Jésus est mort sur la croix pour te sauver, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. Mais il n'est pas que mort, comme je disais tout à l'heure. Il est ressuscité. J'aimerais lire, pour conclure ce message, un dernier verset que Jean a écrit, cette fois dans le livre de l'Apocalypse. Ça fait partie des manifestations auxquelles Jean a pu avoir part. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. D'abord, on va lire un autre verset. C'est juste avant, dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 8. C'est le fils du tonnerre qui écrit ça, qui n'est plus fils du tonnerre. Jean 4, 8. Et il dit ceci. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Autrement dit, lui a connu Dieu. Et tous ses écrits nous le prouvent. Jean était animé d'un amour pour les autres. Il était vraiment animé de cet amour. C'est vrai que les autres disciples aussi, certainement, parce qu'ils ont tous connu Jésus. Mais c'est ce qui ressort de ses écrits, l'amour que Jean avait. Cet amour-là, on ne le reçoit pas comme ça. On ne fait pas de progrès pour l'avoir. Jean a vécu quelque chose avec Dieu. Jean a fait une expérience personnelle. Quand Jean explique qu'il vit et qu'il crut, il ne parle pas de Pierre, il parle de son expérience à lui. Et on voit d'ailleurs toute son humilité où il dit à tout le monde finalement que c'est quand il a vu qu'il a cru. Mais à travers ces paroles, on retrouve encore le fait que c'est une expérience personnelle, qu'il faut faire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et à travers cela, Jésus veut se manifester à ton cœur si tu considères la parole de Dieu, si tu crois ce qui est écrit. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3, il est écrit ceci. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. Car le temps est proche. Ça ressemble un peu au verset que j'ai cité tout à l'heure. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Là, il est question de la prophétie qu'il a reçue, que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Mais ce verset s'extrapole à toute la parole de Dieu. Celui qui lit et celui qui écoute au sens d'obéir, alors il sera heureux. Mais celui qui n'écoute pas, alors attention. Et j'aimerais juste terminer là-dessus, parce que Dieu nous aime, Dieu nous a tellement aimés, mais Dieu nous avertit. Le livre de l'Apocalypse nous parle de beaucoup d'encouragement qu'on peut recevoir quand on a mis notre vie en règle avec Dieu. Mais il faut être honnête, et Jean n'a pas caché ce qui attendait celui qui allait refuser. Jean n'a pas caché que celui qui ne croirait pas serait condamné, et que cette condamnation consistait en une perdition éternelle, au loin de Dieu. Qu'à la fin des temps, il y aurait un jugement. Et si ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, ce sera certainement par elles que nous serons condamnés. Nos œuvres nous condamneront et ne feront rien d'autre. Parce que c'est par nos œuvres que nous serons condamnés. Par mon refus de considérer la parole de Dieu, par mon refus de croire que Jésus est mort pour moi sur la croix, qu'il a souffert pour moi, pour payer mon péché. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Oui, l'Apocalypse a aussi été écrit par Jean. Il y a beaucoup de paroles d'encouragement, mais il y a aussi des avertissements, il faut être honnête. Et c'est bien l'apôtre de l'amour qui les a écrits. Et quand Dieu avertit, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut nous éviter justement d'être loin de lui. Cet après-midi, j'aimerais donner la possibilité à quelqu'un de répondre à ce message, de répondre à cette prédication. Ce n'est pas de sympathiser qui va faire de toi quelqu'un de sauvé. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle qui va faire de toi quelqu'un de sauvé. Ce qui va faire quelqu'un de toi de sauvé, un homme nouveau, c'est que tu fasses la paix avec Dieu, que tu te repentes de tes péchés. Le Seigneur désire te pardonner. Jean était quelqu'un qui avait son caractère, mais il a su recevoir le pardon de Dieu. Il a eu une vie changée, transformée, parce que Dieu voulait lui pardonner. C'est ça la grâce de Dieu. Et cet après-midi encore, il veut te faire grâce. Il veut que tu puisses expérimenter son amour. Il veut que tu fasses une expérience sincère et réelle avec lui. Alors je te demanderai simplement de lever la main. Toi qui désires aller plus loin. Toi qui peut-être as lu la parole des années et des années sans mesurer l'importance de ces paroles, sans y croire. Oui, le Seigneur te voit. Tu peux baisser la main. Le Seigneur te voit, tu peux baisser la main. Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Je dis le Seigneur parce que je vous vois, mais c'est devant Dieu que ça se passe. Qui veut faire recevoir, qui veut vivre cette expérience de l'amour de Dieu qu'il a pour lui ? Le Seigneur t'aime et il ne te veut pas loin de lui pour l'éternité. Il faut définitivement accepter la parole de Dieu et y croire. Le Seigneur t'a tellement aimé. Il est mort pour toi sur une croix. Il a souffert parce qu'il t'aime. Cet après-midi, que tu puisses encore répondre une dernière fois à cet appel. Je le renouvelle une dernière fois et après je vais prier. Ne sois pas qu'un sympathisant. Mais vis l'expérience que Dieu veut te donner. Expérimente l'amour de Dieu. Et ça peut se faire par une simple prière. Seigneur, sauve-moi. Je vais prier. Père Céleste, nous te remercions. Te disons merci pour ta parole. Merci pour cette expérience de l'apôtre Jean qui, alors que nous pourrions croire, était quelqu'un de très bien. Lui aussi a dû faire le point avec toi et il a dû demander pardon pour ses propres péchés. Ta parole nous dit que tous sont péchés, sont privés de ta gloire, et Jean faisait partie. Mais lui a fait le bon choix. Je te prie pour ceux qui ont levé la main. Et je te demande ta grâce. Je te demande, Seigneur, à ce que tu puisses donner à ces personnes d'aller plus loin dans la compréhension de tes paroles, que tu puisses te révéler au cœur, que tu puisses leur faire du bien, là maintenant. Merci, Seigneur, parce que ta parole est formelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comme ce brigand sur la croix qui est sauvé, je te prie, Seigneur, pour que ceux qui ont levé la main puissent saisir par la foi le salut par grâce que tu veux leur donner. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Amen.